France Culture.
On fait le point sur l'information. C'est le journal de la rédaction avec Thomas Cluzel et rebonjour Thomas.
Rebonjour Marie, bonjour à toutes et à tous. Le gouvernement maintient son objectif d'une croissance de 0,7% cette année. Déclaration ce matin du ministre de l'économie Éric Lombard. Et ce, quand bien même les chiffres de l'INSEE témoignent d'une progression de 0,1% seulement au premier trimestre. On parlera également du match pour la présidence des Républicains entre Bruno Retailleau et Laurent Wauquiez. On s'intéressera évidemment à ces 100 jours qui ont ébranlé le monde et déstabiliser l'Amérique. L'état de grâce est-il déjà terminé pour Donald Trump? Quel bilan dressé des trois premiers mois de mandat de l'hyper-président? Nous serons aux États-Unis, on en parlera également avec notre invité. Enfin, on se demandera si le Pakistan a de bonnes raisons ou non de craindre, comme il le dit ce matin, une frappe militaire de son voisin indien. L'INSEE a donc dévoilé ce matin le chiffre de la croissance française au premier trimestre. Un chiffre qui s'annonçait sans éclat et de fait, l'activité économique française a progressé de 0,1%, soit une hausse extrêmement modérée du produit intérieur brut, mais qui masque surtout en réalité de très nombreuses évolutions négatives, qu'il s'agisse de la contribution du commerce extérieur ou bien des investissements également en berne, tant de la part des entreprises que des administrations publiques ou des ménages. Alors plusieurs raisons à cela. Marie Viennot, bonjour.
Bonjour.
Le contexte politique tout d'abord, toujours incertain, avec un gouvernement minoritaire régulièrement menacé de censure. Et puis l'autre facteur pénalisant, Marie, ce sont bien sûr ces dizaines de milliards d'euros de baisse des dépenses et de hausse des prélèvements prévus au budget 2026 pour réduire le déficit.
Oui, l'économie française n'a plus réellement de moteur. En 2024, les dépenses des administrations publiques, État, collectivités locales, hôpitaux furent l'un de ces moteurs. Et en ce premier trimestre de l'année 2025, les restrictions budgétaires ont déjà eu l'effet inverse sur la croissance. Le deuxième moteur de 2024, ce furent les exportations. Et là encore, retournement de la tendance, elles sont en baisse de 0,7% sur les trois premiers mois de l'année, alors que la guerre commerciale en était juste à ses prémices. Clairement, la consommation des ménages, qui a toujours été le moteur de la croissance française, marque le pas aussi. Moins 0,6% pour les achats de biens et services. C'est la fin du bonus écologique pour les véhicules électriques qui a fait chuter la consommation de matériel de transport de 4%. Et pour l'alimentaire aussi, les Français consomment moins. Côté production, il y a un mieux pour l'industrie manufacturière qui produit plus qu'à la fin de l'année 2024. Idem pour l'agroalimentaire. À l'inverse, la construction continue de chuter comme elle le fait depuis plus d'un an. Alors 0,1% de croissance en ce premier trimestre, c'est quand même un mieux par rapport à la fin de l'année dernière où le produit intérieur brut français s'était au contraire contracté. Pour le ministre de l'économie, Éric Lombard, c'est le signe que l'objectif de croissance pour l'année 0,7% reste atteignable, même si, concède-t-il, cela va être un combat pour la France et pour toute l'Europe. Aujourd'hui, Eurostat a publié les chiffres de croissance du premier trimestre pour la zone euro, plus 0,4%, c'est mieux que prévu, mais à y regarder de plus près, c'est grâce à l'Irlande dont les exportateurs ont envoyé deux fois plus de produits aux États-Unis en février pour échapper aux taxes douanière, ce qui ne se reproduira pas dans les prochains mois.
Merci Marie Viennot. Jamais un chef d'État ne s'était déplacé pour présider la traditionnelle cérémonie dite de Cameron à Aubagne, la maison mère de la Légion étrangère. Emmanuel Macron est arrivé sur place ce matin pour cette séquence qui, au-delà de l'hommage militaire, revêt déjà un caractère d'autant plus particulier au vu du pouvoir régalien qui est le sien et qui vient par ailleurs célébrer l'esprit de fraternité et de dépassement de soi, tout un symbole.
Soumise à un ultime vote au Parlement, la version définitive de la proposition de loi pour lutter contre le narcotrafic, érigée en priorité de la politique sécuritaire de l'exécutif, a été définitivement adoptée hier.
Seule la France insoumise a voté contre, un succès qui s'explique par la nature quasi consensuelle du texte, mais qui fait toutefois figure d'exception pour le gouvernement, toujours privé de majorité. Puis évidemment, ce vote constitue une victoire pour le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, constamment mis au défi d'obtenir des résultats dans un gouvernement partiellement macroniste, et ce alors qu'il brille la présidence du parti Les Républicains. À ce titre, et à un peu plus de deux semaines maintenant du vote des adhérents du parti gaulliste pour la désignation de leur nouveau chef, Bruno Retailleau et son adversaire, Laurent Wauquiez multiplient les réunions publiques comme les prises de parole médiatiques. En l'occurrence, Laurent Wauquiez se montre, lui, tout particulièrement offensif depuis quelques jours et pour cause, puisque c'est à lui aujourd'hui de combler le retard que lui prêtent les sondages d'opinion sur le ministre de l'Intérieur. Et c'est ainsi qu'après avoir proposé de déporter les étrangers sous sous obligation de quitter le territoire sur l'île de Saint-Pierre-et-Miquelon. Le patron des députés LR s'en prend désormais au gouvernement de François Bayrou, qu'il soupçonne, Stéphane Robert, de vouloir augmenter les impôts et qu'il accuse par ailleurs d'immobilisme.
Laurent Wauquiez ne s'attaque pas de façon explicite à son adversaire pour la présidence du parti, Bruno Retailleau. Il le fait de manière détournée pour ne pas être accusé de diviser la famille politique à laquelle il appartient. Ainsi, quand il propose de déporter les étrangers sous OQTF à Saint-Pierre-et-Miquelon, c'est pour mieux mettre en évidence les difficultés du ministre de l'Intérieur sur la question des étrangers en situation irrégulière. Autre angle d'attaque, le Premier ministre François Bayrou, que Laurent Wauquiez, hier à l'occasion d'une conférence de presse à l'Assemblée nationale, a accusé d'abord de vouloir augmenter les impôts dans le cadre de la préparation du budget 2026.
Nous n'accepterons pas la suppression de l'abattement fiscal sur les retraités. Nous n'accepterons aucune augmentation d'impôts. Et si François Bayrou devait persister dans cette ligne, il y aura un débat à l'intérieur de notre groupe sur la question du soutien au gouvernement.
Et puis il l'a accusé de n'avoir rien fait pour redresser les comptes publics.
Je constate que rien n'a avancé. Vous n'avez pas eu de suppression d'agence, vous n'avez pas eu de réorganisation de budget. Autre sujet, les dépenses liées à l'immigration. Je rappelle qu'on a un Premier ministre qui a parlé de submersion migratoire. Il n'a inscrit aucun texte sur ce sujet à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale. Aucun.
Deux jours plus tôt, sur BFM TV, il faisait le même constat.
Je constate que dans le gouvernement, il n'y a rien qui bouge. Et ce qui me préoccupe, c'est que je vois avec François Bayrou une forme d'immobilisme s'installer.
Derrière François Bayrou, celui qui est visé, c'est Bruno Retailleau, accusé lui aussi indirectement de ne pas faire grand-chose au ministère de l'Intérieur. D'un côté, Laurent Wauquiez essaie donc de décrédibiliser la parole et l'action de son adversaire. Et de l'autre côté, il défend les retraités, ils sont nombreux chez les Républicains, et réaffirme les fondamentaux de la droite, la maîtrise des comptes publics et le contrôle de l'immigration.
Midi passé de 36 minutes sur France Culture, la suite de votre journal Thomas Cluzel.
Comment marquer les 100 premiers jours du second mandat de Donald Trump quand l'hebdomadaire The New Yorker a choisi de placer la Statue de la Liberté à l'isolement dans une cellule pour illustrer la couverture de son dernier numéro. Son confrère britannique The Economist a lui choisi de décompter le nombre de jours qu'il reste au 47e président américain pour sévir à la Maison Blanche, encore 1361 jours à supporter Donald Trump. Alors, c'est vrai que durant ces 3 premiers mois, le locataire de la Maison Blanche n'a manqué ni d'énergie ni d'audace dans sa volonté de contrôle absolu. Un début de mandat frénétique, sorte de télé-réalité présidentielle à grand renfort de coups d'éclat permanents. Et cela ne fait que commencer, a même promis hier Donald Trump. Et pourtant, en attendant le retour hypothétique à un âge d'or fantasmé, beaucoup de choses ont d'ores et déjà été lancées, quitte d'ailleurs à remettre en cause l'équilibre institutionnel américain. C'est ainsi par exemple qu'en 100 jours, l'administration Trump, et notamment le DOGE, le département de l'efficacité gouvernementale dirigé par Elon Musk, a licencié pas moins de 280 000 personnes dans 27 agences gouvernementales, des fonctionnaires mais aussi des contractors, comme on les appelle, ces sous-traitants qui travaillent pour l'État fédéral. Alors que sont devenus tous ces fonctionnaires licenciés plus de 3 mois après et de quoi vivent-ils? Notre correspondant Sébastien Power a posé la question à deux femmes qui travaillent pour des sous-traitants de l'USAID, l'agence des États-Unis pour le développement international.
Jacqueline Devine était consultante au bureau VIH-SIDA de l'USAID depuis 7 ans, quand elle a reçu un mail le 28 janvier lui disant qu'elle était remerciée.
Alors, 8 jours après le démarrage de cette administration, c'était déjà la fin pour moi. Mais sans préavis, sans d'autres dédommagements.
Elle a tout de suite retrouvé du travail et s'estime chanceuse par rapport à ses anciens collègues. Elle touche une petite pension de son ancien employeur, la Banque mondiale, et venait de finir de payer sa maison en banlieue de Baltimore.
J'ai pu avoir un poste de professeur. Ça paye peut-être 1/20 de ce que je gagnais avant. Et j'ai quelques jours de consultation qui va venir de la Banque mondiale, mais... La plupart de mes collègues n'ont rien, ils n'ont que l'assurance chômage.
$350 par semaine, c'est l'indemnité chômage que touche Chioma, qui refuse de donner son nom de famille. La trentenaire nous répond depuis Houston, au Texas, où elle a rejoint son compagnon quelques mois avant d'être mise à pied, le 7 février, par le sous-traitant de l'USAID pour lequel elle travaillait depuis 2 ans.
Comme je vis dans un état où le coût de la vie est moins élevé, avec l'indemnité chômage, je peux payer mon loyer. Mais c'est la seule chose que je peux payer.
Celle qui est arrivée du Nigeria à l'âge de 14 ans conserve pour l'instant son assurance santé. Elle saura courant mai si elle est licenciée.
En fait, je ne sais pas si le rêve américain est encore une réalité pour beaucoup d'entre nous. Il ne fait pas bon être américain en ce moment.
to be American.
C'est même une honte, d'après Jacqueline Devine, qui dit mal dormir à cause de la peur de l'avenir et songe à quitter le pays.
C'est pas juste déménager, c'est un petit peu plus compliqué et j'ai pas complètement décidé. Je suis un peu SDF, si vous voulez. Je suis en train de voir quelles sont les options dans les pays Schengen aussi.
Elle est arrivée du Canada il y a plus de 30 ans et n'avait jamais envisagé jusqu'ici de quitter les États-Unis.
Voilà, et pour continuer d'évoquer ce début de mandat à nul autre pareil, tenter d'en dresser un premier bilan, invité à présent de la rédaction, Laurie Kenton, maître de conférence à l'Université de Versailles, 50 ans, en Yvelines, par ailleurs membre du Centre d'Histoire Culturelle des Sociétés Contemporaines. Bonjour monsieur.
Bonjour.
On vient d'évoquer les renvois de fonctionnaires aux États-Unis, mais on aurait pu tout aussi bien parler des droits de douane, des attaques à la recherche, des expulsions d'étrangers, du retrait de l'aide internationale au développement, la redéfinition également de l'équilibre des pouvoirs, sans oublier bien sûr la situation à Gaza ou la guerre en Ukraine. Bref, ce second mandat de Donald Trump a déjà donné lieu à une telle déferlante d'annonces qu'il paraît difficile de dresser un bilan d'ensemble, surtout dès lors qu'on essaie de distinguer finalement entre les annonces d'un côté et puis les mesures effectivement mise en place de l'autre, mais c'est peut-être justement par là que l'on pourrait commencer, c'est-à-dire expliquer la posture de Donald Trump, assez différente d'ailleurs que lors de son premier mandat.
Ah oui, le premier mandat, il était un petit peu surpris d'arriver là en fait, hein. Donc il n'était pas du tout préparé comme il l'est cette fois-ci. Alors ça ne veut pas dire que cette fois-ci tout se passe sans encombre, hein. On le voit, il y a énormément de rétropédalages, et ces rétropédalages, c'est aussi une information, hein, qu'il faut prendre en compte. Il y a un désir d'efficacité, il y a une espèce de submersion, on parle de conflit de haute intensité, et là c'est une sorte de gouvernement de haute intensité. Il y a une volonté de noyer les médias dans le trop-plein d'informations, et de noyer aussi les opposants dans le trop-plein d'informations, mais il y a aussi cette volonté inspirée de Franklin Roosevelt des 100 jours et de montrer qu'on est à la manœuvre et qu'on fait des tas de choses. Alors oui, ça part dans tous les sens. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas finalisées, sont très loin d'être finalisées, d'autres qui ont été bloquées par les juges, d'autres sur lesquelles Trump a été obligé de rétropédaler et d'autres sur lesquelles on ne sait pas exactement où il va vraiment aller. Mais il y a énormément d'agitation, ça plaît à sa base, mais ça ne plaît pas beaucoup à ceux qui lui ont laissé le bénéfice du doute en novembre dernier.
Quelles seraient les directions à peu près claires vers lesquelles tente aujourd'hui le président américain ?
Ben, le plus évident, parce que c'est le plus solidement ancré dans ses marottes, on va dire, c'est les droits de douane. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui le poursuit depuis bien longtemps, bien avant son entrée en politique. Donc là, on peut avoir une certitude, c'est que il est quand même assez têtu. Il est relativement pragmatique, c'est-à-dire qu'il est capable de rétro-pédaler. Et ça, c'est vraiment important. Il n'est pas encore dans une espèce de logique de bunker où il veut absolument faire ce qu'il veut, quoi qu'il arrive. Il n'a pas de perspective de réélection, ça c'est important aussi. Donc on pourrait dire qu'il s'en fiche et donc il fait ce qu'il veut. Et en même temps, on a vu qu'il a été sensible à certains arguments. Cela dit, il est quand même très attaché à une redéfinition de l'ordre économique. Il est persuadé intimement que les États-Unis vont dans le mur en étant une puissance globalisée et que l'équilibre de la mondialisation tel qu'on le connaît depuis le début du XXIe siècle, pour lui, c'est fondamentalement mauvais. Et c'est fondamentalement mauvais pour les Américains, notamment, qui ont voté pour lui, qui n'ont pas forcément des emplois dans l'industrie de la connaissance et qui ont des emplois industriels fragiles. Et donc lui, ce qu'il veut, c'est inverser la donne. Et donc ça, pour lui, c'est évident qu'il va y avoir des dommages collatéraux. C'est toujours plus facile à dire quand on possède des golfs que quand on travaille à l'usine ou qu'on aimerait bien travailler à l'usine. Mais donc là, on est dans la phase où il y a des turbulences. Et on peut être certain qu'il va poursuivre cette idée-là.
Face à cette dérive autoritaire du pouvoir, à quelles limites les volontés de Donald Trump peuvent encore se heurter, selon vous ?
Eh ben, le principal, c'est plus le Congrès, hein, on le sait depuis longtemps, c'est les juges. Et le problème des juges, c'est le grand point d'interrogation pour les semaines à venir et les mois à venir, c'est à quel point et à quel moment Trump est prêt à outrepasser les décisions des juges. Et ça peut être quelque chose de symbolique. sur un dossier qui est relativement consensuel, et ça peut être des choses beaucoup moins consensuelles. Et le problème, c'est que on ne sait pas où ça peut s'arrêter. C'est-à-dire que les juges n'ont pas véritablement de moyens de forcer l'exécutif, par exemple, à obtempérer. Il n'y a pas véritablement de force de police. Il y a les US Marshals, mais c'est pas suffisant. C'est-à-dire que si Trump décide de hausser les épaules et de dire « m'en fous, je fais quand même », il n'y a rien qui peut le contraindre à ne pas faire. Lors du premier mandat, et c'est la grande différence, il y a eu un certain nombre de ces décrets qui ont été invalidés par des juges, et il a été obligé de revoir sa copie. Et il l'a fait de bonne grâce à de nombreuses reprises, c'est-à-dire qu'il était encore dans le jeu des institutions. Et là, on ne sait pas, il a dit qu'il ne s'attaquerait pas à la Cour suprême, qu'il respectait la Cour suprême, mais il dit beaucoup de choses et son contraire le lendemain. Donc on ne sait pas exactement comment ça va s'enchaîner, en fait. Et il reste encore beaucoup de temps, et donc beaucoup d'occasions pour lui de franchir cette ligne rouge.
C'est bien noté. Merci, Lauric Henton, maître de conférence à l'Université de Versailles, Saint-Quentin-en-Yvelines, et membre du Centre d'histoire culturelle des sociétés contemporaines, d'avoir répondu à notre invitation. Merci également à Louis Guérin pour la préparation.
Trois petits sièges seulement et le succès aurait été total.
Oui, au Canada, après publication des résultats définitifs, les libéraux échouent de peu à obtenir la majorité absolue au Parlement. Pour autant, le Premier ministre Mark Carney devrait sans peine pouvoir gouverner en s'appuyant sur l'un des petits partis représentés à la Chambre basse. Et puis surtout, cette quatrième victoire consécutive aux législatives était encore inespérée il y a quelques mois à peine, lorsque son parti était alors promis à une déroute électorale. Malgré le manque de preuves d'une implication directe du Pakistan dans l'attaque terroriste au Cachemire la semaine dernière qui a coûté la vie à 26 touristes, le premier ministre indien Narendra Modi a donné son feu vert pour des représailles contre son voisin et ennemi juré, au point que ce matin Islamabad dit disposer de preuves crédibles d'une frappe militaire imminente de New Delhi. Frédéric Seyss, bonjour.
Bonjour.
Malgré les appels internationaux à la désescalade, on a le sentiment, Frédéric, qu'une confrontation entre les deux puissances nucléaires demeure toujours possible.
Oui, le Pakistan s'attend à une frappe indienne sur son sol entre aujourd'hui et demain midi, heure française, indique le ministre de l'Information, sur la foi, dit-il, de renseignements crédibles, auquel cas le gouvernement pakistanais se dit prêt à riposter avec, je cite, tout le spectre de la puissance nationale, allusion à l'arme nucléaire dont les deux pays sont dotés depuis la fin des années 90. Côté indien, l'entourage du Premier ministre Narendra Modi fait savoir qu'il a donné carte blanche à l'armée pour organiser la riposte. Riposte à l'attentat de la semaine dernière, 25 touristes indiens et un Népalais tués par un commando armé dans la partie du Cachemire contrôlée par l'Inde. Attaque la plus meurtrière dans cette région depuis 20 ans. New Delhi dit avoir identifié deux des quatre assaillants comme des ressortissants pakistanais. L'Inde voit derrière cet attentat la main d'un groupe islamiste soutenu ou au moins hébergé par le Pakistan. Outre les déclarations belliqueuses de part et d'autre, des échanges de tirs ont à nouveau éclaté pour la sixième nuit consécutive près de la ligne de contrôle, c'est-à-dire la frontière qui sépare les deux pays au Cachemire, et ce malgré les appels à la retenue lancés à la fois par le secrétaire général de l'ONU, les États-Unis, la Chine et l'Arabie Saoudite.
Merci Frédéric Seyss.
Dans une semaine très exactement commencera l'élection du successeur du pape François.
Et parmi les événements qui rythment déjà l'avant-conclave, on peut noter le déménagement en ce moment même des habitants de la résidence Sainte-Marthe dans les jardins du Vatican, c'est-à-dire là où dormiront les cardinaux le temps du scrutin. C'est une correspondance à Rome signée Bruno Duvic.
Pierre-Jean Gire, ambassadeur de la Fondation Pontificale, est l'un des quelques 50 résidents à l'année à Sainte-Marthe. Mais pas en ce moment.
J'ai dû me replier dans un couvent.
Pour les personnels de la curie, prélats et autres collaborateurs du pape qui vivent là, la date limite pour évacuer les lieux était hier. Mais les premiers cardinaux sont arrivés dès le jour de la mort de François.
Ils étaient un peu perdus. Ils étaient surtout préoccupés par aller rendre visite au Saint-Père.
À quoi ressembleront leurs chambres durant le conclave ?
C'est des chambres toutes simples, avec un lit, un crucifix, une salle d'eau et un petit bureau attenant.
Plus des espaces communs, salon, hall, salle à manger où les cardinaux pourront discuter. Les personnes chargées de l'entretien et des repas prêtent serment de garder le secret sur ce qu'elles pourraient entendre. 126 chambres à Sainte-Marthe pour 133 électeurs. Il faudra probablement loger des cardinaux dans un bâtiment attenant. Et le prochain pape habitera-t-il ici ?
Lorsque le Saint-Père arrivait le matin, prenait son petit déjeuner, il saluait tout le personnel de Sainte-Marthe. Comment va avant ton fils? Comment s'est passé son examen? Bien sûr que ça n'existera pas s'il n'est pas les pontificales.
Le temps du conclave, la chambre 201 où vivait François sera sous-scellée, une de moins de disponible.
On termine avec un mot du temps pour cet après-midi estival sur l'ensemble du territoire avec des températures comprises entre 20 et 26 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par Nicolas Pommet et à 18h, vous avez rendez-vous avec Aurélie Kiefer pour le prochain journal de la rédaction.